questions dont la réponse pourrait transformer votre vie. Pourquoi Jésus est-il venu sur la terre? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui démontre combien Dieu nous aime. Aujourd'hui, à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Aujourd'hui, on continue l'étude du livre de l'Apocalypse. Et jusqu'à maintenant, je pense que ceux qui voyaient ce livre comme étant uniquement au sujet de catastrophes doivent être pas mal surpris de voir autant d'amour dans l'enseignement qu'on reçoit, n'est-ce pas? Au cours de l'émission, je crois qu'on va être encore bien servi dans ce beau livre de la Bible, puisqu'on va entendre parler de Jésus et de son épouse, l'Église. Alors voici nos questions. Pourquoi Jésus est-il venu sur la terre? Comment est-ce qu'on peut interpréter les lettres envoyées aux sept églises de l'Apocalypse? Ces lettres sont-elles des éléments qui s'appliquent aux églises des autres temps jusqu'à aujourd'hui? Quelles sont les caractéristiques de ces livres? Est-ce que l'envoi de lettres était une pratique courante dans le temps de l'apôtre Jean? Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec l'église d'Éphèse? Quelle était l'idole la plus sacrée du paganisme antique? Qu'est-ce que les apôtres Paul et Jean ont fait à Éphèse? Quelle importance avait la lettre de Jésus à l'église d'Éphèse? Restez avec nous. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous enseigner ce qu'elle dit en réponse à chacune de nos questions. Mais premièrement, prions. Merci Seigneur pour la prière qui nous donne accès à toi, là où on peut exprimer tous nos sentiments. Seigneur, dans cette prière aujourd'hui, j'aimerais te dire combien je t'aime et combien plusieurs ou peut-être tous nos auditeurs t'aiment. Reçois notre amour et donne-nous des cœurs réceptifs au tien. Cet amour que tu veux nous donner aujourd'hui par ta parole. Enseigne-nous, Seigneur, afin qu'on t'aime encore plus, afin qu'on te serve encore mieux et qu'on puisse un jour parvenir à cette perfection qui va te glorifier parfaitement et éternellement. Parle-nous, Seigneur, nous t'écoutons et nous t'aimons. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, la dernière émission nous a dévoilé le véritable visage de Jésus-Christ. Son aspect est redoutable et il reflète son infinie souveraineté sur tout l'univers. Il vaut mieux être prévenu à l'avance, car un jour l'humanité tout entière devra comparaître devant notre Seigneur Jésus-Christ pour être jugée. Certains recevront leur juste récompense et les autres leur juste châtiment. Nous avons également révisé les trois sections principales du livre de l'Apocalypse. Elles sont simples à comprendre, le passé, le présent et l'avenir. Elles sont résumées dans Apocalypse chapitre 1 verset 19. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le passé est contenu dans le premier chapitre. L'apôtre Jean a vu le Christ glorifié. Le futur se trouve dans les chapitres 4 jusqu'à la fin. Mais pour le moment, concentrons-nous sur le présent. Introduction chapitre 2 et 3. Cette section du livre de l'Apocalypse porte sur l'Église, également appelée le corps de Christ. Jésus a tellement aimé son Église qu'il s'est livré pour elle et il est mort pour elle. L'Église est le corps des croyants que le Père éternel a remis à Jésus et pour lesquels notre Seigneur prie. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 17, versets 1 à 5, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Oui, Jésus avait été envoyé sur terre afin de faire connaître le Père éternel. Ce dernier avait préparé d'avance des hommes et des femmes afin qu'ils reconnaissent son Fils Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur et qu'ils obtiennent ainsi la vie éternelle. Son œuvre étant maintenant achevée, le lendemain, il serait crucifié. De cette manière, Jésus allait payer la dette encourue par le péché de ceux que le Père lui avait donnés. Comment un homme qui se sait condamné peut-il parler avec autant d'assurance s'il n'a pas l'absolue certitude qu'il retournera bientôt à la gloire qui est la sienne? Car avant que le monde soit, Jésus-Christ était glorifié, et après être retourné auprès du Père, il se révèle maintenant dans toute sa gloire à son disciple Jean. Quel encouragement pour la jeune Église persécutée! Aujourd'hui encore, à chaque jour, des milliers d'hommes et de femmes reconnaissent l'appel de leur berger. Ils reconnaissent qu'ils avaient été préparés d'avance par Dieu afin d'appartenir à son peuple et à sa famille. Toutefois, après le chapitre 3 de l'Apocalypse, l'Église brille par son absence. Jusqu'au chapitre 4, l'Église est mentionnée 19 fois, mais à partir de là, et jusqu'au chapitre 20, au moment où Dieu juge les impies sur le grand trône blanc, l'Église n'est plus mentionnée du tout. Où est passée l'Église? Quelle est sa destination? Quelle est sa location pendant tout ce temps? Elle n'est plus dans ce monde. Elle a été enlevée de la terre par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous ne sommes pas encore rendus là. Une histoire de l'Église. Pour le moment, les sept lettres adressées aux Églises peuvent s'interpréter et s'appliquer de trois manières. Premièrement, le message est contemporain, c'est-à-dire qu'il s'adresse directement aux sept Églises locales. Encore une fois, ces Églises existaient réellement au temps de l'apôtre Jean. J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous traduisons et adaptons les textes, avait plusieurs fois visité l'emplacement des ruines de ces Églises. Il deviendra notre guide au cours des deux prochains chapitres. Ses visites l'enthousiasmaient, car elles le rapprochaient de l'univers concret de la Bible. Il pensait qu'on pouvait mieux se rapprocher de la Bible en visitant ces sept églises qu'en explorant le pays d'Israël. Les ruines de ces églises portent en elles un message évident. L'auteur de l'Apocalypse écrivait à des églises qu'il connaissait bien. Dans son commentaire sur ces sept églises, Sir William Ramsay affirmait « L'homme qui a rédigé ces lettres aux sept églises les avait visitées et il connaissait bien les conditions de vie locales. » Deuxièmement, le message est composite. En d'autres mots, il est formé à partir de plusieurs éléments distincts. Chaque lettre forme un portrait composite de l'église à laquelle elle s'adresse. De plus, dans chacun des messages, on trouve des éléments qui s'appliquent à toutes les églises à travers les siècles. Par exemple, si vous lisez le message pour l'église de Pergame, vous y trouverez un message pour votre église et un message pour vous personnellement. Troisièmement, le message est chronologique. Un panorama historique de l'église nous est proposé dans ces sept lettres. Il s'étend de la Pentecôte jusqu'au retour futur de Jésus-Christ. Il part de la chambre haute et monte jusque dans la stratosphère. On distingue sept périodes de l'histoire de l'Église dans ces lettres. Éphèse représente l'Église apostolique, Laodicée représente l'Église apostate, et ainsi de suite. Cette description prophétique s'est presque complètement accomplie, et elle fait maintenant partie de l'histoire de l'Église. Tout cela rend la lecture de ces chapitres très féconde. Dans son commentaire du disciple du Nouveau Testament, MacDonald nous propose une lecture où les époques de l'Église se présentent comme suit. Éphèse. L'Église du premier siècle était en général digne de louange, mais elle avait déjà abandonné son premier amour. Smyrne. Du premier au quatrième siècle, l'Église subit la persécution sous les empereurs romains. Pergame, pendant le IVe et le Ve siècle, le christianisme fut reconnu comme religion officielle par l'empereur Constantin. Thyatire, du VIe au XVe siècle, l'Église catholique romaine régna largement sur la chrétienté occidentale jusqu'à ce qu'elle soit ébranlée par la Réforme. À l'Orient, l'Église orthodoxe prédomina. Sardes, le 16e et le 17e siècle constituent l'après-réforme où la lumière de la réformation s'éteignit peu à peu. Philadelphie. Pendant le 18e et le 19e siècle, il se produisit de puissants réveils et d'importants mouvements missionnaires. Laodicée, l'Église des derniers jours, est dépeinte comme tiède et apostate. Elle est caractérisée par le libéralisme et par l'œcuménisme. La structure des lettres. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur la structure précise et bien définie utilisée dans chacune des lettres aux sept églises. Premièrement, on y trouve une caractéristique du Christ glorifié que l'apôtre Jean a vue au chapitre 1. Cette caractéristique soulignée est différente pour chaque église. Et bien sûr, elle est soulignée avec une intention bien précise. Deuxièmement, les lettres sont adressées à l'ange de chaque église. Comme je l'ai déjà dit, je crois que cet ange est seulement le messager humain de l'église locale que nous appelons aujourd'hui un pasteur. Troisièmement, la lettre commence toujours par l'expression « je connais » ou « je sais ». Et sur 5 églises sur 7 commence par la phrase « je connais tes œuvres ». Quatrièmement, après les félicitations viennent les avertissements. Comme on dit par chez nous, après avoir lancé des fleurs, il lance le pot. Cela semble être la règle générale, mais quelques exceptions doivent être notées. Les églises de Smyrne et de Philadelphie ne reçoivent aucun avertissement. Smyrne était l'église martyre et il n'allait pas la condamner. Philadelphie était l'église missionnaire qui répandait sa parole dans tout le pays. Il n'allait pas la condamner non plus. Par contre, l'église de Laodicée, la dernière église, ne reçoit aucune félicitation. Cette église apostate n'en mérite pas. Cinquièmement, chaque lettre se termine avec l'avertissement suivant. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dans la deuxième section principale du livre, nous voyons les choses qui se passent actuellement, autant à l'époque de l'apôtre Jean qu'aujourd'hui. Ce sont des choses qui concernent l'Église. Chacune des sept lettres contient un message venant du Seigneur Jésus-Christ et qui s'adresse à une Église. La paix romaine. À l'époque de l'apôtre Jean, Rome avait bâti un vaste réseau de routes qui s'étendait jusqu'aux confins de l'Empire. Bien sûr, le but premier de ces routes était de pouvoir déplacer rapidement des troupes en cas de révolte contre le pouvoir impérial. Toutefois, ces routes profitaient à tout le monde. Entre autres, ces routes favorisaient le commerce, les voyages et la transmission du courrier. Si je croyais au hasard, je dirais que l'Église a profité de ces routes pour répandre le message de l'Évangile. Mais je ne crois pas au hasard, et je sais que Dieu a mis sur place des infrastructures favorisant la propagation de sa parole. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu que les souverains d'empire obéissaient aux consignes de Dieu, quelquefois à leur insu. Au début du Nouveau Testament, César Auguste commande le recensement pour le peuple d'Israël. Ainsi, le Messie promis allait naître à Bethléem, conformément aux prophéties. Donc, l'envoi de lettres au temps de l'apôtre Jean était une pratique courante. Mais les sept lettres de l'Apocalypse sont remarquables pour d'autres raisons. La principale est que ces lettres viennent directement du Seigneur Jésus. En fait, on peut dire qu'il existe en réalité deux épîtres aux Éphésiens. Celle rédigée par l'apôtre Paul, sous l'impulsion de l'Esprit de Dieu, et celle rédigée par l'apôtre Jean, selon les instructions données par Jésus. Le docteur Dreisman a tenté d'opérer une distinction entre lettres et épîtres qui s'est avérée, en bout de compte, artificielle et fausse. Le fait que les missives de l'apôtre Jean aux sept églises soient appelées des lettres et non des épîtres ne diminue en rien leur importance. Elles ont exercé un impact considérable et ont atteint et touché une multitude de personnes. On comptait beaucoup d'églises importantes dans l'Empire romain, mais ces sept églises ont été choisies parmi beaucoup d'autres, et pour plusieurs raisons. L'une d'elles est parce que ces églises se trouvaient dans une des plus importantes parties de l'Empire romain pendant le 1er, 2e et même le 3e siècle après Jésus-Christ. Ce secteur tirait son importance du fait de sa location. Il était situé au carrefour entre l'Est et l'Ouest. Même en remontant aussi loin que 20 siècles avant Jésus-Christ, une civilisation s'épanouit déjà le long de la côte d'Asie mineure, dans ce qui fait maintenant partie de la côte ouest de la Turquie. Encore aujourd'hui, c'est un beau pays. J. Vernon McGee aimait dire que cela lui rappelait la Californie, mais sans le smog. Mais en plus de sa beauté, la contrée est remarquable pour la richesse de son sol. Dans les temps anciens, on y trouve le cœur de la nation hittite. Ce sont d'ailleurs les Hittites qui ont fondé Éphèse et Smyrne 2000 ans avant Jésus-Christ. Pergame a, selon toute évidence, été fondée beaucoup plus tard. Thyatire et Sardes ont été fondées encore plus tard, et elles ont connu un grand essor sous Alexandre le Grand. La civilisation anatolienne y a rencontré la civilisation grecque. Les Anatoliens étaient plus primitifs. Ils adoraient des idoles qui ressemblaient à des bêtes. Les Grecs, eux, adoraient des idoles qui étaient des projections et des extensions de la nature humaine. Éphèse était une grande cité comptant environ 200 000 âmes. On y trouvait un théâtre en plein air. Il était d'une bonne taille pour l'époque, car on pouvait y asseoir autour de 20 000 spectateurs. Il faisait bon se détendre à Éphèse, et les empereurs ne dédaignaient pas d'y séjourner. Une bonne partie des bâtiments était construite de marbre blanc. Mais par-dessus tout, Éphèse est un endroit où l'Évangile de Jésus-Christ s'est profondément enraciné dès le début. L'impact de la parole de Dieu sur cette ville était tellement grand que 4 grands piliers ou tours ont été installés à l'entrée du port. Sur chacune d'elles se trouvait l'emblème de la croix. Le premier monument était dédié à Matthieu, l'autre à Marc, l'autre à Luc et le dernier à Jean. Un seul pilier reste encore debout aujourd'hui et on peut y voir le symbole de la croix. On peut également trouver d'autres preuves de l'impact considérable créé par la parole de Dieu dans le fait que plusieurs temples païens ont été plus tard transformés en églises. Suite au ministère de Paul et de Jean dans les environs, un nombre considérable de chrétiens résidait à cet endroit. Il semble que l'apôtre Paul ait exercé son ministère le plus fructueux dans la ville d'Éphèse. L'évangéliste Luc écrit, dans le livre des Actes, chapitre 19, verset 10, « Tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. » Tous ne se sont pas convertis, mais tous ont entendu la parole du Seigneur. Ce mouvement est probablement un des plus grands de l'histoire de l'Église. L'Église dans le monde. Éphèse n'était pas seulement une belle ville, elle était aussi la principale dans la province d'Asie. Pline l'appelait la lumière de l'Asie. Elle était à la fois le centre religieux et commercial de cette région, dont l'influence s'étendait autant à l'est en Asie qu'à l'ouest en Europe. Quand l'apôtre Paul a accosté dans le port d'Éphèse, il a arpenté le boulevard du port, fait entièrement de marbre blanc. En marchant vers le centre de la ville, il a vu de nombreux bâtiments imposants, des temples et des magasins. Sur sa droite se trouvait un grand marché. Et devant lui se trouvait le théâtre dont nous avons déjà parlé, situé à flanc de montagne. Sur sa gauche se trouvait le grand amphithéâtre où on pouvait asseoir plus de 100 000 personnes. À certains moments, on pouvait trouver jusqu'à 2 millions de personnes dans la ville. C'est là que l'apôtre Paul a exercé son plus grand ministère et là où l'apôtre Jean est ensuite devenu pasteur. Cette cité s'est d'abord développée autour du temple de Diane, également appelé Artémis par les Grecs. Le premier temple était construit en bois. Il avait été élevé sur les basses terres, près de l'océan. En fait, les eaux se rendaient jusqu'aux fondations. Avec le temps, les cours d'eau qui se jetaient dans la mer ont apporté beaucoup d'alluvions. Et à l'époque d'Alexandre le Grand, les sédiments apportés par les rivières entouraient le temple. Encore aujourd'hui, l'eau de la rivière est aussi épaisse que la soupe à cause des sédiments rocheux qu'elle transporte. La nuit où Alexandre est né, le temple a brûlé, et plus tard, quand le grand conquérant s'est emparé de la ville, il l'a remise entre les mains d'un de ses généraux, Lysimaque. Puisque le port se remplissait de sédiments, Lysimaque a déménagé la ville et ses habitants dans des terres plus élevées. C'est là que nous pouvons voir les ruines de la ville encore aujourd'hui. C'est là également que l'apôtre Paul a exercé son ministère. Sur l'emplacement du vieux temple, des fondations de charbon et de peau ont été placées sur cet endroit humide et marécageux. Alexandre le Grand a dirigé la construction du nouveau temple de Diane, qui est ensuite devenu une des merveilles du monde antique. C'était un des plus grands temples grecs. Il était supporté par plus de 100 colonnes extérieures d'environ 19 mètres de haut. Parmi elles, 36 étaient taillées à la main. Les portes étaient faites de bois de cyprès. Les colonnes et les murs étaient évidemment en marbre. L'escalier était taillé dans une vigne provenant de Chypre. Le temple servait également de banque. On y déposait de vastes sommes d'argent. Il contenait aussi une galerie d'art exposant les chefs-d'œuvre de Praxitèle, de Phidias, de Scopas et de Polyclète. L'œuvre bien connue du peintre Apelle, représentant Alexandre le Grand, s'y trouvait aussi. Derrière un rideau pourpre se trouvait aussi une image de Diane en tant que déesse de la fertilité. Elle avait de nombreux seins sur sa poitrine et portait un gourdin dans une main et un trident dans l'autre. Les Éphésiens tenaient leur déesse en très haute estime, et les premiers chrétiens y furent accueillis avec des cris comme « Grande est la Diane des Éphésiens !» Le livre des Actes, chapitre 19, le verset 28. Diane était l'idole la plus sacrée du paganisme antique. Son temple était 4 fois plus grand que le Parthénon d'Athènes. Il a été finalement détruit par les Goths en 256. Mais il est encore bien debout au temps de l'apôtre Paul. On retrouve des traces de son architecture à Istanbul, dans la cathédrale Sainte-Sophie. Les magnifiques grandes colonnes vertes ont été prises du temple de Diane par Justinien lorsqu'il a construit sa cathédrale. Avec elle, on peut se faire une idée de la beauté du temple de Diane dans l'ancienne Éphèse. Autour du temple de Diane se commettaient les formes les plus grossières d'indécence. Elle était probablement adorée davantage que toute autre idole. Et les adorateurs se complaisaient dans les rituels les plus immoraux de sensualité et dans des orgies vicieuses et débauchées. Plus loin, à l'intérieur des terres, l'adoration de cette déesse n'est devenue, avec le temps, rien de plus que des orgies sexuelles, et son nom s'est transformé de Diane en Cybèle. Lors de son 3e voyage missionnaire, l'apôtre Paul est venu à Éphèse pour y établir un ministère. Pendant 2 ans, la parole de Dieu s'est répandue à partir de l'école de Tyrannus. Paul décrit ici son expérience, dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. Une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Plus tard, Jean, l'apôtre de l'amour et le fils du tonnerre, est venu à Éphèse en tant que pasteur. Il a ensuite été exilé à Patmos. Après avoir vécu l'exil et l'emprisonnement pendant environ 10 ans, il est retourné à Éphèse. La basilique Saint-Jean, située sur le plus haut sommet de la région, est érigée sur l'endroit où, selon la tradition, l'apôtre Jean a été enterré. La lettre de Jésus-Christ à l'église d'Éphèse. Le Seigneur Jésus-Christ parle à cette église au milieu d'une ville corrompue par le matérialisme, dégradée par la chair et tordue par un sombre paganisme. Nous serions bien avisés de prendre ces paroles à cœur, car ce message à l'église d'Éphèse est un des plus importants. Chers amis, débutons notre lecture. Apocalypse, chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » On remarque que Jésus-Christ est celui qui tient les églises dans sa main. Elles sont sous son contrôle. Au temps de l'apôtre Jean, le Christ glorifié marchait au milieu des églises et... Il le fait aujourd'hui encore. Il évalue et juge encore l'assemblée des croyants. Oui, il est le juste juge, nous dit les Saintes Écritures, et un jour, nous devrons le rencontrer. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Apocalypse, chapitre 2, versets 2 à 6. À vous tous, bonne lecture.
Merci, Régent. Je ne me lasse pas d'entendre ce qui concerne Jésus et son Église. Mes amis, Régent nous a mentionné aujourd'hui que Jésus avait tellement aimé son Église qu'il s'était livré pour elle et qu'il était mort pour elle. Et il a aussi dit que l'Église était le corps des croyants que le Père éternel avait remis à Jésus et pour lesquels Jésus priait. C'est pas beau, ça? Mes amis, Jésus a été envoyé sur cette terre afin de faire connaître le Père éternel. Ça m'a touché quand Régent a dit que le Père avait préparé d'avance des hommes et des femmes afin qu'ils reconnaissent son Fils Jésus comme leur Sauveur et Seigneur et afin qu'ils obtiennent ainsi la vie éternelle. J'ai beau parler bien souvent de cet amour et je ne m'en lasse pas. Mes amis, pensez-y. Régent nous l'a redit aujourd'hui, Jésus a payé la dette de ceux que le Père lui a donnés. Dieu le Père m'a donné à Jésus. Je lui appartiens parce qu'il m'a racheté et j'ai l'assurance que je vais passer l'éternité au ciel avec lui. Quel amour! Mon ami, as-tu un jour saisi cette vérité? Es-tu de ceux qui ont un jour été convaincus que Dieu les aimait à ce point-là? Mais peut-être que c'est aujourd'hui, en ce moment même, que tu le réalises. Si oui, ne prends pas le risque d'attendre pour diverses raisons. Tu pourrais manquer le bateau. C'est de notre vivant qu'on choisit où on va passer l'éternité. Je peux te nommer des raisons que les gens se donnent pour ne pas accepter Jésus comme sauveur personnel. Par exemple, qu'est-ce que ma mère va penser si je change de religion? Ou je devrais laisser mon conjoint qui ne veut pas qu'on se marie parce que je sais que Dieu ne veut pas qu'on ait des liens en dehors du mariage. Je devrais cesser de faire des abus de boisson. Je devrais quitter mon emploi parce que je sais que mes employeurs ne déclarent pas tout au gouvernement. Peut-être que je devrais payer une dîme aussi. Il y a toutes sortes d'excuses que les gens se donnent au lieu de regarder ce que Dieu veut donner, veut nous donner. Eh bien, mon ami, enlève toutes ces pensées de ta tête. C'est l'adversaire, le diable, qui veut t'empêcher de passer du royaume des ténèbres au royaume de Dieu, là où tout est lumière et vérité. Il y a des gens aussi qui disent « Je comprends bien le plan de Dieu pour me sauver et je crois tout ce qu'on me dit au sujet de Jésus qui est mort à la croix pour moi, mais je ne suis pas prêt à changer de vie. C'est trop compliqué, je vais attendre à plus tard quand telle ou telle chose sera réglée dans ma vie. » Eh bien, mon ami, ceci pourrait être l'erreur la plus grave que tu n'aies jamais commise. Dans Hébreux 9, au verset 7 et 8, il est écrit ceci. « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ceci pourrait s'adresser à toi, mon ami. Viens donc à Jésus aujourd'hui. Prends pas le risque de perdre cette vie éternelle que Dieu veut tant te donner. »
Caro. Nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne. Comme toi, Régent, la dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé. Et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca. ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.